Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment toujours un plaisir et une joie de vous retrouver, enfin de se retrouver en tout cas, ensemble dans ce lieu. Et ben voilà, hein, malgré l'absence de piano, voilà, les chants ont été bien menés. Et nous avons une belle chorale multi-voix dans cette église. C'est bien. Nous allons nous pencher cet après-midi un peu plus dans une étude sur les dons spirituels. Alors, le don spirituel, qu'on appelle aussi les charismes, charisme, ça veut dire qui est donné par grâce. Et ce qui est donné ici par grâce, c'est donné gratuitement. Chaque croyant, né de nouveau, reçoit le Saint-Esprit à la conversion, à sa conversion. Nous recevons déjà à ce moment un certain nombre de grâces, de cadeaux, à savoir, premièrement, la rémission des péchés et l'assurance de la vie éternelle. Ces deux choses sont les premières grâces de Dieu données par l'Esprit-Saint. Puis, il y a les dons, dispensés selon la volonté de Dieu, que nous recevons non pour nous-mêmes, mais pour les besoins d'autrui. C'est-à-dire pour les besoins des autres. Donc nous avons lu 1 Pierre 4,10, hein, je me permets de le relire. « Chacun de vous, donc j'insiste bien sur les mots, hein, chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. » Et que ce don, qu'il le mette au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Alors, il y a beaucoup de messages à l'intérieur de ce verset, et nous allons essayer de développer tous les différents thèmes qu'il y a à l'intérieur, et voir quelles sont les différentes applications. Il y a divers dons, nous allons les voir, mais toujours le même et seul et unique Esprit de Dieu. Plusieurs dons, mais le même Saint-Esprit. D'accord ? Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 7, il est écrit ceci. « Il y a diversité de dons de la grâce, dons gratuits, hein, mais c'est le même Esprit, diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur, diversité de modes d'action, mais c'est le même Dieu qui met en tous tout en œuvre. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. » En résumé, ces dons sont des agents de croissance indispensables pour l'Église de Dieu, pour son édification. Une église où il n'y aurait aucun don qui s'exprime, c'est une église morte, hein, dans le sens où il n'y a pas d'édification. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui parle, il n'y a personne qui joue, il n'y a personne qui prêche, il n'y a personne qui prépare, il n'y a personne qui fait rien. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 4, les versets 8 à 12. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. Et là, les versets intéressants. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de quoi ? En vue de la construction du corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est l'Église. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Et je vous invite vraiment à relire ces versets d'Éphésiens et vraiment à vous les approprier. L'apôtre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, là aussi c'est un chapitre que nous lirons la prochaine fois, illustre et résume les dons spirituels. Ce corps spirituel, donc l'Église, hein, regardez-vous, hein, vous êtes un corps spirituel. Ce corps spirituel qu'est l'Église ne peut croître que si tous les membres sont en fonction. Ces dons spirituels sont des capacités surnaturelles, j'insiste bien, surnaturelles, données par Dieu pour un service spirituel. Ces grâces reçues ou charismes, du grec charismata. Et il est question aussi de charismata pneumatica, c'est-à-dire grâce, une grâce, un cadeau, du Saint-Esprit venant de Dieu. Aussi avec la notion de respiration. Respiration, aspiration aussi, car la grâce est vivante et respirante. Une église, c'est une église qui vit. Elle vit pour revenir à notre exemple de ce que nous vivons, de ce que nous avons déjà vécu là depuis le début de notre rencontre, elle vit par ses chants, elle vit par ses prières, elle vit par le partage de la parole, elle vit par sa méditation, elle vit par le service, hein, Tan qui prépare les programmes, notre frère qui s'occupe de la, comment dire, de la sono, de la projection, ceux qui mettent en place. Voilà, c'est tout ça, c'est un ensemble d'activités qui permettent à l'Église de bien fonctionner. Une église doit entrer dans un processus de croissance. Ces dons spirituels, tout à l'heure je parlais de capacités surnaturelles. Il y a une distinction à faire entre ces dons spirituels surnaturels et nos capacités naturelles qui viennent de notre naissance, ce qu'on appelle aussi des talents. Hein, je peux être doué. Je peux avoir le talent de la cuisine, par exemple, de la pâtisserie, n'est-ce pas ? Je peux avoir le talent de la musique, je peux avoir une sensibilité au niveau de la musique, c'est facile pour moi, ou de la lecture, ou différentes choses, ou de la préparation, je suis quelqu'un d'organisé, voilà. Donc nos talents n'entrent pas dans la liste des dons spirituels, hein, parce que là on n'est pas dans le surnaturel, on est dans le naturel, venu avec notre naissance. La pratique des dons spirituels produit sur l'autre un effet encouragé par l'esprit pour sa croissance. Pas forcément nos talents, hein. Je peux être doué pour la musique ou la pâtisserie ou autre chose, mais c'est pas forcément pour... enfin, ça ne va pas édifier l'Église de manière spirituelle, même si ça va encourager. Ne pas confondre aussi avec les fruits de l'esprit. Hein, j'essaye d'aborder les différents mots que l'on peut entendre pour vraiment bien caler au niveau des significations et de savoir comment ça s'imbrique, comment ça se distingue. Donc ne pas confondre aussi avec les fruits de l'esprit qui viennent de notre personnalité de croyant, indiquant ma croyance et ma justesse dans ma foi. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est que Jésus compare aussi l'incroyant comme un arbre qui doit produire du fruit. Mais il y a différents arbres avec différents fruits. Chaque croyant doit porter du fruit. Et ces fruits sont pour tous les croyants. Ce n'est pas le cas des dons. Donc, moi en tant que chrétien, je dois porter du fruit. Les fruits doivent se voir. Hein. La grande question, c'est d'où viennent ces dons ? D'où viennent ces dons ? On a déjà répondu assez clairement à la question. C'est un seul et même esprit opère toutes ces choses. Dans 1 Corinthiens 12, chapitre 12, versets 11 et 12, Mais tout cela, hein, tous ces dons, c'est l'unique et même esprit qui le met en œuvre, accordant à chacun des dons personnels divers, comme l'esprit le veut. En effet, prenons une comparaison, le corps est un, hein, parce qu'on parle du corps de Christ, l'Église c'est le corps du Christ, et pourtant il y a plusieurs membres. Mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est de même du Christ. Et justement, dans Paul aux Corinthiens développe bien ces différents aspects. Il dit que voilà, dans une assemblée, il ne peut pas y avoir, si vous prenez une assemblée de 15 personnes, il ne peut pas y avoir soit 15 prédicateurs, ou soit 15 conducteurs de louanges, ou soit 15 préparateurs. Sinon, il n'y a pas de diversité. Or, dans une église, il y a diversité de dons, donnés par le Saint-Esprit pour l'édification des uns et des autres. Dans Jacques, chapitre 1, verset 17, « Tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut du Père, qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement, ni ombre, dû à des variations, le même esprit, par le même Dieu. Chaque chrétien peut recevoir, en tout cas, enfin, c'est pas peut recevoir, pardon, je reviens en arrière. Chaque chrétien reçoit, hein, c'est pas peut recevoir, reçoit un ou plusieurs dons, selon la volonté du Saint-Esprit, encore une fois. Un chrétien sans don, ça n'existe pas. Si quelqu'un se dit « moi je n'ai pas de don », c'est pas vrai. Chaque chrétien a un don. J'ai entendu aussi, peut-être que vous l'avez déjà entendu aussi dans d'autres rencontres ou séminaires, si vous allez croiser d'autres églises, un jour ce que j'ai entendu c'est que « ah, mon église elle est charismatique ». Charismatique, ça veut dire qu'il y a des dons qui s'expriment. Je suis désolé mon frère, mais toutes les églises elles sont charismatiques. Toutes. Parce que dans chaque église, il y a des dons. À partir du moment où dans chaque église, il y a des dons, et c'est une vérité absolue, toutes les églises sont charismatiques. Notre responsabilité est de découvrir le don que le Saint-Esprit nous a donné. C'est peut-être parfois la chose la plus difficile. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 6, Paul invite son interlocuteur à raviver le don. Le don qui t'a été donné par grâce. Parce qu'on peut recevoir un don et puis ne pas l'entretenir. Tout à l'heure, on disait que soyez comme des gérants. Qu'est-ce que fait un gérant dans une entreprise? Il gère. Oui, ça veut dire quoi, gérer? Ça veut dire s'assurer du développement de son entreprise. Que son entreprise soit profitable, c'est-à-dire fasse du profit. Fasse du profit pourquoi? Pour développer son activité, pour payer le salaire de ses employés, et ainsi de suite. Si une entreprise n'est pas bien gérée, elle peut fermer. Elle peut cesser toute activité. Autre question que l'on peut se poser, pourquoi un don plutôt qu'un autre? Peut-être que vous êtes déjà posé la question, ou peut-être que vous allez vous la poser après avoir entendu ce message. Alors, pourquoi un don plutôt qu'un autre? Déjà, on a compris que ça ne dépendait pas de nous. Ok? C'est comme si je vous donnais un cadeau. Je vous tends un cadeau, vous ne savez pas ce que c'est. Mais par contre, vous le recevez. Alors, c'est pas un cadeau que vous méritez, parce que ce n'est pas donné au mérite. Puisque c'est pas pour soi-même, c'est pour l'édification de l'Église, de tous et toutes. Par contre, Paul encourage ses, ses, Ses interlocuteurs, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, il dit ceci, « Ayez pour ambition les dons les meilleurs ». Oui, forcément, il faut aspirer à quelque chose de aspirer. Hein. On parlait de charismata pneumatica, hein, aspirer. J'aspire aux dons les meilleurs. Et il dit, et de plus, je vais vous indiquer une voie infiniment supérieure. Verset 14, donc chapitre 14, verset 1er. Ainsi, recherchez avant tout l'amour. Aspirez en outre aux manifestations de l'esprit et surtout aux dons de prophétie. Donc, aspirez aux manifestations de l'esprit. Aspirez, recherchez à ce que l'esprit se manifeste. Le Saint-Esprit se manifeste, l'Esprit de Dieu se manifeste. Ce verset illustre que chaque chrétien doit demander à Dieu, doit réclamer à Dieu les dons pour son Église. Là, pour l'Église dont vous faites partie, dont vous êtes membre. Seigneur, que tu puisses équiper mon Église, là, cette Église, enfin c'est l'Église du Seigneur, mais dont je fais partie, que tu puisses lui envoyer les dons les meilleurs. Pour qu'au lieu de végéter, nous puissions croître, nous puissions devenir des adultes dans la foi. Aspirer. Ça concerne l'Église dans son ensemble. Hein. J'aspire déjà pour moi, Seigneur, que tu puisses m'accorder des dons afin que je fasse bénéficier mes frères et sœurs de ce don ou de ces dons. Déjà un don bien utilisé, ça prend du temps. Et encore une fois, l'attribution n'est pas un hasard, hein, c'est pas une loterie, d'accord ? C'est pas une loterie. Je pense que c'est une bonne illustration. C'est pas une loterie, c'est pas un hasard, c'est pas une récompense, d'accord ? Dans l'édification de l'Église. C'est aussi la recherche des orientations de l'Église. Quelles sont les orientations que vous donnez à l'Église? Qu'est-ce que vous voulez que votre Église soit? Quelle est son identité? C'est à la Pentecôte que les dons apparaissent, à l'ascension de Jésus, comme il l'avait annoncé. Jésus l'avait annoncé dans Actes, chapitre 1er. Jean a bien donné le baptême d'eau. Mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Ils étaient donc réunis et lui avaient posé cette question, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Il leur dit, « Vous n'avez pas à connaître les temps ou les moments que le Père a fixé avec sa propre autorité. » Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au extrémité de la terre. Là, le Saint-Esprit se répandra sur les apôtres. Et là, on va faire la partie sur ce qui s'est passé. Parfois, on est sur le sujet, sur le parler en langue. S'interroger non plus, on laisse de côté. Peut-être que ça fait peur. Certaines personnes ont peur de parler en langue. Parfois, mal connu, c'est source de malentendus et c'est peut-être aussi source parfois. D'interprétation erronée. Pour certains, à la lecture de la Pentecôte, c'est la première chose que les chrétiens expriment au travers du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Si le texte est arrivé là, oui, mais il faut considérer le contexte des événements. Hein, on ne prend jamais un verset ou un verset dans la Bible sans savoir dans quel contexte. L'esprit ne va pas faire de mauvaises interprétations. Alors, pour résumer, qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre haute? Les apôtres étaient juifs et ils parlaient hébreu.
tous au moins le propre côté. D'accord ? Vous avez aussi, pour certains, parlé vietnamien. On a beaucoup parlé anglais ou allemand. Nous parlons même la même langue. Nous nous proposons la même langue. Dans la ville de Jérusalem, là où j'étais, c'est une multitude de nations. Qui dit une multitude de nations dit une multitude de langues. Quand le Saint-Esprit descend sur eux, précisons, c'est pour la première fois, hein, d'accord, les apôtres se mettent à parler dans d'autres langues, mais d'autres langues connues, et pas une langue inintelligible. Des langues connues de la suite de l'homme. Il y avait donc une utilisation précise de se parler en d'autres langues. Le Saint-Esprit attestait de sa puissance auprès des autres juifs de Jérusalem et des apôtres. C'est comme si, là, le Saint-Esprit me donnait de parler en vietnamien. Pour que vous compreniez ce que je viens vous dire. Parce que Dieu a à vous dire. Une personne étrangère dans la salle et je me mettrai à parler dans son langage. Qu'elle connaît très bien. Par la suite, la parole de Dieu et le Saint-Esprit furent répandus au Saint-Esprit. Acte 8, versets 4 et 5. Ce donc qui avait été dispersé à l'air de lui enlever, annonçant la bonne nouvelle de la parole, c'est ainsi que lui, qui était descendu dans une ville de Samarie, il proclamait le Christ. Puis à toutes les autres contrées. On est dans une langue connue d'autres personnes. Il y en a certains qui pensent que c'est une preuve indispensable de la conversion ou du baptême du Saint-Esprit. Assurons-nous donc déjà que chaque croyant reçoit maintenant le Saint-Esprit au moment de sa conversion. Ça, c'est une vérité. Que de parler en langue des apôtres à la Pentecôte n'a plus cours aujourd'hui. Cela a eu lieu un moment, en un endroit. De parler en langue dont nous parle Paul dans Acte 15, prenez une signification. C'est le parler en langue de l'interprétation de langue. Lisez vraiment Acte 15, très édifiant. Rappelons que le parler en langue est un parler spirituel et qu'à ce titre, à sa place est pour l'édification de l'Église. On est bien d'accord et on revient toujours sur le même sujet. Qui dit donc, dit édification de l'Église, croissance de l'Église et rien d'autre. Supposez, donc Paul dit, supposez maintenant frère que je vienne vous voir et vous parle en langue. Notre langue. En quoi vous serais-je utile si ma parole ne vous apporte ni révélation, ni connaissance, ni prophétie, ni enseignement? Imaginez que je parle dans une langue que personne ne connaisse. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Il peut arriver, il est juste rapproché de parler en langue de la personne. Il peut également arriver que le croyant parle notre langue au cours de sa prière personnelle. C'est ce qu'on appelle l'exaltation des langues de la gloire. C'est ce que nous retrouvons dans la recherche de la respiration de l'âme. L'âme est quelque chose de vivant, c'est pas une nature morte. Le parler en langue est un don comme un autre et sans valeur ajoutée, sans puissance particulière. Justement, dans 1 Corinthiens 12, verset 30, Paul dit ceci, « Est-ce que tous ont le don de guérison? Est-ce que tous parlent en langue? Est-ce que tous interprètent ?» Faisons bien la distinction, et j'espère que vous avez compris, hein, on a parlé de parler en langue, de ce qui s'est passé à la Pentecôte, d'accord, mais là on parle de parler en langue dans une langue qui n'est pas connue.
dans 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 19 à 24. Grâce à Dieu, je parle en langue, plus que vous tous, mais dans une assemblée, je préfère dire 5 paroles intelligibles pour instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 en langue. Frères, pour le jugement, ne soyez pas des enfants. Pour le mal, oui, soyez des petits-enfants. Mais pour le jugement, soyez des adultes. Il est écrit dans la loi, « Je parlerai à ce peuple par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, mon Seigneur. » Par conséquent, les langues sont un signe non pour le croyant, mais pour les incrédules. La prophétie, elle, est un signe non pour les incrédules, mais pour les croyants. Si, par exemple, l'Église est tout entière rassemblée et tous parlent dans des langues que l'on ne connaît pas. Le simple auditeur ou les non-croyants entreraient, ils tout. Si au contraire, la prophétie, le non-croyant ou le simple auditeur se voit repris par tous et jugé par tous. Et si ça s'adresse à l'église, ce n'est pas un caractère, ça ne sert à rien. Si le Saint-Esprit s'inspire à parler en langue, il envoie une interprétation. Comme la recherche de l'esprit, une recherche sincère et profonde de Dieu. Est-ce que cela en sort? Oui, en fait, des paroles prophétiques, avec interprétation pour édifier, si cela concerne l'Église. Donc, oui, en tant que paroles prophétiques, mais non en tant que parler dans des langues prophétiques comme la parole. Nous sommes d'accord. Il y a eu lieu à un moment donné, dans un but précis. Le parler en langue n'est pas indispensable au salut et à la présence de l'esprit. Ne pas donner plus d'importance qu'il n'en faut au parler en langue. Le parler en langue, ça ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas. Car l'intellect n'est pas concerné. On n'apprend pas le parler en langue. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à parler dans à utiliser un langage que je ne comprends même pas. C'est une exaltation de mon âme. Mais encore une fois, j'insiste bien sur le fait que il n'y a pas de caractère indispensable dans le parler en langue. Et c'est pas parce que vous ne parlez pas en langue, je ne parlerai pas en langue, que je ne serai pas chrétien, que je n'aurai pas l'esprit en moi. On est bien d'accord? Paul précise bien dans 1 Corinthiens 14 et verset 14, car si je prie en langue inconnue et que je prononce des sons inintelligibles, mon esprit s'entretient avec Dieu. Mais mon intelligence n'y participe pas et n'en retire aucun fruit. Alors, on ferme la parole. Vous n'avez pas. Bien sûr, je vous invite à réécouter mon message. Et si vous voulez avoir d'autres explications, n'hésitez pas à venir me voir à la fin du jour. L'aparté, mais il me semblait important de faire la distinction justement sur ce que nous parlons. Sur ce parler en langue, que vous compreniez bien ce que Paul voulait dire dans 1 Corinthiens 12, que nous lirons la prochaine fois. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère avoir éveillé votre curiosité. Que le Seigneur bénisse sa parole, mais surtout qu'il nous, voilà, que nous comprenons le but de ce message. Et surtout, l'utiliser de mettre en mots pour l'explication de l'Église.